Le texte qui va nous servir de point de départ de la méditation ce matin se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, et les versets 7 et les versets 8. L'apôtre Paul conseille à Timothée: exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel en effet est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Ce mot piété résonne un peu vieux, un peu démodé. Aujourd'hui, on utilise un autre, beaucoup plus courant, c'est la spiritualité. C'est intéressant de réfléchir à la spiritualité parce que nos églises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont traversées par une diversité de spiritualité. Il y a, dans le protestantisme en tout cas, il y a la spiritualité évangélique traditionnelle, centrée sur l'écoute de l'évangile. Il y a une spiritualité plutôt pentecôtiste ou charismatique. Il y a des spiritualités actives et il y a des spiritualités contemplatives. Il y a des spiritualités tournées vers le souci de l'autre. Il y a une grande diversité de spiritualités. Ce mot spiritualité désigne donc les formes concrètes de la foi, parfois dans un sens étroit, centré sur la prière et la lecture de la Bible, et parfois dans un sens plus large, englobant tout ce que manifeste une vie de chrétien, une vie de disciple. C'est intéressant, peut-être, de voir ce que le Nouveau Testament nous dit sur la spiritualité, essayer de trouver certaines choses que le Nouveau Testament dit. Le thème, évidemment, est très vaste. Fondamentalement, la spiritualité chrétienne est la construction de la relation à Dieu. La construction et l'approfondissement de notre relation au Père Céleste. Quand nous devenons chrétiens, nous découvrons que Dieu se présente à nous, se donne à nous comme le Père Céleste. Il fait de nous ses enfants par adoption. Et ce lien avec Dieu est plus important, est le lien le plus important de notre existence, le lien le plus structurant de notre existence humaine. Plus important que tout autre lien, y compris les liens de filiation, il y a pour chaque être humain le lien qui l'unit à son Créateur, son Père Céleste. Jésus dit un moment dans l'Évangile: si vous ne me préférez pas à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis, c'est que vous ne pouvez pas être mes disciples. Ce n'est pas une question de Jésus veut avoir tout pour lui, mais fondamentalement, nous sommes d'abord créé par Dieu, pour Dieu. Et ce lien-là est plus important que tous les autres. Et ce lien-là, nous n'avons pas fini de l'approfondir au fil du temps. Le salut fait de nous des enfants de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous allons bientôt fêter Pentecôte, la venue de l'Esprit. Et une des missions essentielles de l'Esprit, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Papa, Père », nous dit l'apôtre Paul. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la spiritualité chrétienne s'enracine dans cette relation et veut la développer dans toutes ses dimensions au fil du temps. C'est une dimension d'ouverture, une dimension où nous sortons pour nous exposer à Dieu et recevoir de lui les impulsions pour notre vie. Aujourd'hui, la spiritualité peut être, dans certains discours en tout cas, une spiritualité auto-centrée. On se regarde dans le miroir de sa piété personnelle. Ou, plus largement, la spiritualité se confond avec un domaine de réalisation de soi ou de développement personnel. Certaines spiritualités vont clairement dans ce sens, et ça peut être utile, mais le cœur de la spiritualité biblique est ailleurs. Le cœur de la spiritualité biblique est de développer, de creuser la relation au Père céleste. Et donc, elle nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu, d'abord, et au prochain, vers lequel Dieu nous envoie, dans un deuxième temps. Cette spiritualité, la vie spirituelle, elle est produite non pas par nous seulement, mais par le Saint-Esprit. C'est lui qui, concrètement, nous met en communion avec Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait que le salut devient une réalité croissante en nous. C'est l'Esprit qui travaille notre être intérieur. Et ce, de plusieurs manières. Saint-Esprit nous éclaire sur la réalité spirituelle. Il nous révèle de façon personnelle qui est Dieu, et il nous éclaire sur le contenu de l'Évangile. C'est un esprit qui nous aide à lire l'Évangile. Et il le fait notamment par la lecture communautaire de l'Écriture, quand nous nous réunissons pour étudier la Bible. L'Esprit nous donne aussi du discernement, il nous aide à voir clair. À voir clair dans la multitude des discours que nous pouvons entendre sur la foi, mais aussi il nous aide à comprendre comment l'Évangile se vit dans nos situations personnelles et communautaires. L'Esprit travaille aussi notre manière d'être, nous le savons. Il veut faire pousser en nous son fruit, comme dit l'Écriture. Il veut mettre en nous, plus profond de nous, son fruit qui se manifeste par des comportements nouveaux. Parce que l'Esprit est une puissance de transformation du croyant et de l'Église. Même si cela se fait de manière partielle encore, ici-bas. L'Écriture fait cela, mais pas... L'Esprit fait cela, mais pas n'importe comment. Il utilise les médiations bien connues. D'abord l'Écriture, nous l'avons dit avant. L'Écriture, parole de Dieu, par laquelle nous pouvons connaître Dieu et connaître sa volonté. Ensuite, la prière. La prière par laquelle nous demandons de façon active et intentionnelle ce que Dieu veut nous donner. Et enfin, troisième médiation, l'Église. L'Église parce que Dieu a voulu que nous grandissions dans la foi par l'apport des uns et des autres. C'est cette merveilleuse construction de l'Église que Paul décrit en 1 Corinthiens 12, où à chacun, à chaque membre du corps, quel qu'il soit, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu a choisi de nous parler, de nous bénir, de nous construire à travers les autres. C'est son mode préférentiel d'action. Ce qui fait que l'Église ne ressemble pas à une roue de bicyclette où chacun serait centré sur Dieu, mais ressemble plus à une toile d'araignée où les connexions se font de manière multiple les uns avec les autres, et la grâce circule à travers les uns et les autres. Dieu a choisi de nous parler, de nous bénir, de nous édifier à travers les autres dans la communauté. Soit dans les relations directes, comme sommes au culte, comme nous vivons la vie communautaire, mais aussi quand nous sommes dans des week-ends comme les jeunes d'aujourd'hui, et même par des relations plus indirectes, quand nous lisons des livres, des revues, que nous allons sur Internet. L'Esprit produit la vie spirituelle, mais c'est-à-dire que nous sommes passifs dans ce processus. Certainement pas. D'abord, nous sommes responsables de notre vie spirituelle, comme du reste de notre vie d'ailleurs. Nous avons à prendre conscience de la réalité de notre vie, par-delà les pièges de l'illusion et du rêve, pour voir quels sont les domaines où Dieu nous attend pour nous faire grandir avec notre accord. C'est pourquoi nous sommes invités à nous donner les moyens de temps en temps d'opérer des prises de conscience par des temps de recul, de retour sur nous-mêmes. Nous sommes aussi responsables de nos choix qui nous appartiennent et dont les conséquences nous reviennent. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. Et dans la vie spirituelle, un de ses premiers choix est de consentir à l'œuvre de l'Esprit. Parce que l'Esprit ne va pas agir en nous si nous ne lui demandons pas de façon intentionnelle. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous disons chaque fois que nous prions le Notre Père ? Et nous le disons même de trois manières différentes. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que disons-nous d'autre que, entre autres, Seigneur, agis en moi comme tu le souhaites ? Cette prière nous décentre d'abord de nous pour nous centrer sur Dieu et sur la volonté de Dieu. J'ai dit consentir, mais le mot est faible, il faudrait dire aspirer, désirer, vouloir. Parce que la vie spirituelle met en jeu notre désir de Dieu et notre désir d'une vie conforme à sa volonté. Elle nous interpelle sur la réalité de ce désir en nous et sur la place de ce désir en nous par rapport à tous les autres désirs qui peuvent nous habiter. Et parfois, nous nous rendons compte que ce désir est faible dans nos cœurs. Et parfois, il est vivifié par, justement, les médiations que nous utilisons, par le fait d'être avec des frères et sœurs, d'aller au culte, de lire la Bible, ou je ne sais quoi, par toutes sortes d'autres choses encore. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, ni produire par nous-mêmes la vie spirituelle. Mais nous pouvons nous approcher de celui qui est capable de développer cette vie spirituelle en nous, même si c'est de façon partielle. Sommes-nous d'accord pour cela ? Sommes-nous d'accord de nous exposer à l'action de l'Esprit ? Sommes-nous prêts à avancer, ce qui signifie aussi changer ? Parfois, nous soupirons après le fait que l'Église grandisse. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous sommes prêts à changer quelque chose en nous. Et donc c'est un paradoxe, évidemment, qui fait que les choses n'avancent pas. Avons-nous confiance que si nous prions, peut-être que des portes vont s'ouvrir. D'ailleurs, nous l'avons déjà vécu, les uns les autres. Mais que les portes peuvent s'ouvrir et nous n'avons pas besoin d'avoir peur des changements que Dieu peut opérer en nous. Nous pouvons lui faire confiance pour cela. Plus confiance encore que pour les hommes politiques que nous votons. L'œuvre de l'Esprit en nous n'est pas arbitraire, elle est orientée d'une manière particulière. La vie spirituelle a pour but fondamental de mieux aimer Dieu et notre prochain. De mieux aimer Dieu et notre prochain. De ressembler de plus en plus dans notre être intérieur et dans nos attitudes à Jésus. De vivre de mieux en mieux selon le modèle qu'il nous donne dans l'Évangile. Il y a un véritable projet de vie. Et un projet de construction de notre personnalité. La spiritualité, en tout cas la spiritualité chrétienne, n'est pas planante. Elle ne veut pas quitter le réel et ses contraintes. Si elle privilégie des moments de mise à l'écart, de retraite, c'est pour mieux nous replonger dans la réalité qui est la nôtre. Et pour vivre l'Évangile le mieux possible, dans l'amour du prochain, l'accueil de ceux que nous rencontrons, nos engagements dans la famille, l'Église, le travail, la société, etc. Le développement de la spiritualité peut passer par des moments difficiles. Nos vies passent par des moments difficiles. Et comment la vivons-nous dans la foi ? C'est une question importante. Nous avons des temps d'épreuves, de souffrances. Récemment, un de nos amis qui est venu prêcher ici plusieurs fois est décédé, avant-hier, Fernand Natsiger. C'est difficile à vivre. Comment nous vivons-nous dans la foi ce type de réalité ? Eh bien, on dit que le caractère se forge dans la difficulté, c'est aussi vrai pour la vie spirituelle. Quand nous traversons les épreuves en persévérant, à tenir fermement la main du Seigneur, à nous accrocher à sa parole, à nous accrocher et à persévérer à lui faire confiance, alors quelque chose se construit en nous et se développe. Les chrétiens persécutés pourraient en parler mieux que moi. Mais nous avons, sans être persécutés, nous vivons une existence où tout n'est pas rose et nous pouvons connaître ce type d'expérience. Une dernière chose que je rappelle, vous en insister, c'est que la spiritualité biblique est une spiritualité communautaire. Elle se vit en communion avec les autres chrétiens, notamment ceux de l'église locale, mais pas seulement. Elle se vit aussi avec des chrétiens d'autres églises, comme nous l'avons fait avec le flash mob le samedi saint. Parce que la vie spirituelle nous invite et nous encourage à nous ouvrir aux autres, même s'ils sont différents, et surtout s'ils sont différents. Nous invite à élargir notre cœur et notre intelligence pour que de plus en plus de personnes y aient de la place. La vie spirituelle nous invite à repousser les limites parfois étroites de nos modes de pensée et parfois étroites aussi de nos psychologies personnelles pour nous ouvrir. Et c'est là un des aspects évidents de l'amour du prochain auquel nous sommes appelés. Et nous avons ce modèle du Seigneur Jésus qui manifeste dans les évangiles une remarquable ouverture à toutes les personnes qu'il rencontre et qui, dans la société où il a vécu, était une société souvent clivée, souvent les gens étaient séparés les uns des autres par toutes sortes de règles et de lois, et une culture aussi. Nous voyons Jésus traverser joyeusement toutes ces barrières et accueillir et aller à la rencontre de tout un chacun, ce qui est un excellent exemple pour nous. C'est difficile d'évoluer, c'est difficile d'élargir, peut-être intellectuellement on peut élargir son horizon, mais c'est plus compliqué d'élargir son cœur, d'ouvrir son cœur, pour utiliser une image que nous trouvons dans la Bible. Mais c'est justement ce que le Saint-Esprit est capable de faire en nous. Lui qui peut travailler au plus profond de notre être intérieur. Lui qui peut nous faire bouger là où nous nous retrouvons parfois bloqués. C'est un apprentissage, c'est un chemin. Par définition, la vie spirituelle est un chemin. Décidons d'aller persévérer sur ce chemin. Décidons de faire confiance au Seigneur qui peut nous faire grandir, qui peut travailler ce qui fait obstacle en nous. Invitons-le à faire son œuvre et ensemble, grandissons les uns par les autres dans la foi. Amen.